Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de RBA, l'hôpital Cœur Ouvert vous retrouve pour sa rentrée radiophonique. Nous vous proposons de commencer par un sujet éminemment d'actualité et méconnu, mais qui pourtant revêt une importance capitale pour tout un chacun dans l'ensemble de nos démarches de santé. Extrait d'une information émanant du ministère de la Santé et datée du mois de juillet 2023, je cite « Retard de prise en charge, erreur de diagnostic ou de thérapie, échange d'informations erronées. En France, encore de trop nombreux cas d'identification inexacte surviennent, avec des conséquences parfois graves sur le parcours de soins des patients et leur état de santé. La bonne identification représente donc un enjeu majeur pour la sécurité des soins. Vous l'aurez compris, le sujet du jour vous concerne directement. Être bien identifié, c'est être bien soigné. De cette constatation est née l'identitovigilance. L'identitovigilance est un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l'identification des patients. Revenons à notre identité, du latin identitas. L'identité signifie le même, le caractère de ce qui est identique. En droit, l'identité est pour une personne physique ce qui fait qu'une personne est elle-même et non une autre. Par extension, l'identité renvoie à ce qui permet de reconnaître une personne et de la distinguer des autres. Par définition, l'identité civile désigne l'ensemble des éléments qui, au terme de la loi, concourent à l'identification d'une personne physique, le nom, sexe, prénom, filiation. Seule la carte d'identité, le passeport, un titre de séjour sont les papiers d'identité qui énoncent et attestent de l'identité civile. Le jour de notre naissance, nos parents font le choix de notre identité. Le ou les prénoms simples ou composés, puis les noms de famille qui aujourd'hui peuvent présenter quatre possibilités. Nous pouvons donner le nom de famille du père uniquement, le nom de famille de la mère uniquement, ou les deux, père-mère, mère-père, séparés ou non d'un tiré. L'identité retenue par les parents est déclarée à l'état civil de la mairie de la commune de naissance. Les données qui proviennent des bulletins d'état civil adressés par les communes sont ensuite communiquées à l'INSEE. Cette action vise à enregistrer pour chaque personne les informations d'état civil le concernant et lui attribuer un numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques. Il s'agit de notre numéro national d'identité. Alors, quel lien avec les données de santé, me direz-vous ? Nous l'avons compris, être bien identifié, c'est être bien soigné. Alors pour être bien identifié, nous disposons d'une identité nationale de santé, que vous verrez souvent écrit avec l'acronyme INS. L'INS est un identifiant national unique et permanent pour chaque usager du système de santé. Il est constitué du numéro d'identification de l'individu au répertoire des personnes physiques, dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des traits d'identité de référence provenant de la base nationale d'état civil. Depuis janvier 2021, toute donnée de santé est référencée avec l'identité nationale de santé. L'INS est une donnée personnelle, protégée par la CNIL. Cet identifiant est donc unique, univoque, pérenne et reconnu par tous les acteurs de la santé et du médico-social. Il permet la bonne identification des usagers et le bon référencement des données de santé. La vérification de cette identité unique se fait par une double action pour l'usager, donner sa pièce d'identité au professionnel de santé, quel qu'il soit, et pour le professionnel, se connecter à la plateforme dite INSEE, identifiant national de santé intégré. Ce téléservice permet aux seuls acteurs de la santé et du médico-social d'obtenir l'identité nationale de santé d'un patient et de confirmer, qualifier l'identité. Cette vérification à chaque étape du parcours de soins fiabilise votre identité, évite les erreurs de prise en charge, uniformise l'identité auprès des professionnels de santé, que ce soit en structure hospitalière, médico-sociale ou auprès des professionnels de santé libéraux. Pour vous expliquer concrètement l'application de toutes ces actions concernant l'identité, je vous présente mon invité du jour, qui est la spécialiste des identités du centre hospitalier de Bord-les-Orgues. Il s'agit de Véronique Montex. Bonjour Véronique.
Bonsoir Laetitia et bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Je m'appelle Véronique Montex. J'occupe le poste d'adjoint administratif au bureau des entrées du centre hospitalier de Bort-les-Orgues avec ma collègue Laurence. Je vais vous présenter en quelques mots la mission principale de mon poste qui a pour socle au quotidien l'identito-vigilance, le sujet de notre émission aujourd'hui. Je suis chargée de l'accueil des usagers et de leurs familles, de la prise en charge administrative des patients dans le service de médecine ou de SSR et des résidents pour un hébergement en EHPAD ou dans le service USLD du centre hospitalier de Bort-les-Orgues. À chaque admission dans l'établissement en vue d'une hospitalisation, d'un hébergement ou d'une consultation externe, un dossier administratif est créé, informatisé et facturé au bureau des entrées. Pour créer le dossier administratif d'entrée, l'usager doit présenter sa pièce d'identité, sa carte vitale et sa mutuelle.
Alors, nous avons expliqué en préambule ce qu'est une identité nationale de santé. Nous avons parlé de la nécessité de présenter sa pièce d'identité. Pouvez-vous maintenant nous expliquer concrètement comment les choses se déroulent à l'entrée dans l'établissement ?
Eh bien, aujourd'hui, quand vous vous présentez au bureau des admissions du centre hospitalier, vous avez le réflexe de présenter votre carte vitale et votre mutuelle pour que votre séjour soit pris en charge par votre régime de sécurité sociale et votre mutuelle. Mais le duo carte vitale et mutuelle sont des outils d'aide au remboursement et à la facturation uniquement. Ils n'attestent en aucun cas de votre identité, ce ne sont pas des pièces d'identité. D'où l'importance, nous le reverrons, de présenter sa pièce d'identité pour qualifier celle-ci auprès des professionnels de santé au sein de l'établissement et en dehors de l'établissement.
Alors, pour nos auditeurs, quelles sont aujourd'hui les pièces d'identité à fournir lors d'une prise en charge auprès d'un professionnel de santé ?
Depuis le 1er janvier 2021, l'usager doit présenter sa pièce d'identité pour créer son dossier administratif d'entrée dans l'établissement de santé. Cela peut être sa carte nationale d'identité, un passeport, un titre permanent de séjour. Et pour le mineur, s'il n'a pas de pièce d'identité, le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance accompagné de la pièce d'identité d'un parent. La pièce d'identité est dite à haut niveau de confiance. Elle permet aux professionnels de santé de valider l'identité numérique. C'est ce que Laetitia vous a présenté comme l'identité nationale de santé.
Alors, nous l'avons vu, la première étape est la présentation de la pièce d'identité du patient. Quelle est l'étape suivante ?
Nous renseignons l'identité du patient dans notre logiciel pour créer son identité à partir des données de la pièce d'identité. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les traits stricts. Puis, de façon automatique, le logiciel va se connecter au serveur national d'identité de santé afin de remonter l'INS. Ce qui permet de comparer les informations de la pièce d'identité avec l'identifiant national de santé et de qualifier dans notre base informatique cette identité, si évidemment toutes les deux sont identiques. Cet accent est une obligation légale, quel que soit le professionnel de santé.
Alors, l'intérêt que chaque professionnel de santé s'assure de cette vérification, c'est avant tout de garantir que nous ayons bien le bon patient à chaque étape. Rappelez-vous, être bien identifié pour être bien soigné. Vous avez parlé à l'instant de traits stricts. Nous pouvons peut-être préciser à nos auditeurs de quoi il s'agit précisément.
Les traits stricts vous sont propres et sont constitués du nom de naissance, des prénoms de naissance, de la date de naissance, du sexe et du code INSEE de la commune de naissance.
Alors là, c'est quand tout se passe bien, mais j'imagine que par moment, cela ne se passe pas comme cela a été prévu. Alors, quelles sont les problématiques que vous rencontrez ?
La problématique principale est l'absence de pièces d'identité. Quand l'usager se présente au bureau des entrées sans pièces d'identité, je réclame à la commune de son lieu de naissance un extrait d'acte de naissance pour reprendre les points de son état civil et créer son identité. Mais cette identité sera provisoire, parce que l'extrait d'acte de naissance ne se substitue pas à la pièce d'identité. Elle me permet de créer le dossier de l'usager pour les soignants dans l'attente de la pièce d'identité. Et à réception de la pièce d'identité, on pourra qualifier l'identité de l'usager.
Vous prenez souvent l'exemple du permis de conduire. Peut-être vous pouvez reprendre cet exemple auprès de nos auditeurs.
J'aime bien prendre le cas du permis de conduire. Effectivement, c'est un document que l'on a toujours sur soi en cas de contrôle routier. Il faut raisonner de la même façon pour la pièce d'identité en cas de vérification par les professionnels de santé. Une autre problématique rencontrée est l'incohérence entre le fichier national qui remonte et la pièce d'identité. Parfois, les deux n'ont pas les mêmes informations. Dans ce cas, je ne peux pas qualifier d'identité. Dans cette situation, j'invite l'usager à entamer une action de modification de son identité auprès des autorités compétentes. Mon rôle est de lui communiquer la marche à suivre. Je l'invite à s'orienter, si besoin, vers France Service pour l'aider dans la démarche, pour mettre à jour ses données INSEE qui lui sont propres et qui reprennent les traits stricts de sa pièce d'identité. Et cette identité numérique, n'oublions pas, sont utilisées par tous les professionnels de santé.
Et pas seulement, donc lorsqu'il y a une erreur dans l'identité nationale, ça a un impact aussi au niveau des coordonnées qui sont communiquées aux impôts ou sur notre pour toutes nos démarches de sécurité sociale.
Elle nous suit tout au long de notre vie.
Voilà, d'où l'importance de bien faire modifier l'identité lorsqu'on se rend compte qu'il y a une erreur.
Voilà, tout à fait.
Quelles sont les conséquences d'une identité qui n'a pas été confirmée, qualifiée ?
Cela a une conséquence directe sur la prise en charge et la sécurité des soins au sein de l'établissement, mais tout au long du parcours de soins à l'extérieur de l'établissement. Concrètement, nous remettons un dossier aux soignants avec une identité qui reste provisoire, non vérifiée, dans l'attente de la pièce d'identité, ce qui a pour conséquence une prise en charge médicale sur une identité non confirmée officiellement. Rappelons que l'objectif est de disposer d'une identité fiable et commune pour tous les professionnels de santé qui interviennent tout au long de la vie du patient.
Alors, nous pouvons préciser à nos auditeurs que la fiabilisation des identités est une vigilance, au même titre que l'infectiovigilance, l'hématovigilance, la pharmacovigilance ou bien d'autres. Alors, comme toutes les vigilances, l'identitovigilance est un système de surveillance et de gestion des risques spécifiquement lié aux erreurs d'identification des patients. Elle est structurée avec un référent dans l'établissement qui est formé et coordonne tout ce travail. Il s'agit de l'identitovigilance, c'est moi qui assure cette fonction à l'hôpital, mais c'est une équipe pluriprofessionnelle qui va s'assurer de la bonne mise en œuvre dans l'établissement. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots.
Au sein de l'établissement, il existe une commission d'identitovigilance qui se réunit tous les 2 mois et qui est composée de 2 référentes, Laetitia Chemin, l'identitovigilante, et moi-même, puis d'un médecin, un cadre et un préparateur en pharmacie. Nous traitons et analysons les dysfonctionnements de la création d'identité à l'admission. Au quotidien, les 2 référentes assurent en binôme le suivi et les actions sur les dossiers. Puis mensuellement, Laetitia adresse les résultats et les indicateurs au Centre régional d'identitovigilance.
Nous pouvons dire que c'est très fréquent, puisque nous traitons plusieurs cas par semaine.
Tout à fait, oui.
Alors, nous pouvons préciser que l'ensemble des acteurs de la santé doivent se conformer au référentiel national de l'identitovigilance. Il s'agit d'un document de référence nationale en termes d'identification des patients. Il fixe les bonnes pratiques d'identitovigilance en positionnant l'identifiant national de santé comme identifiant unique du patient. Pour en revenir donc au quotidien du bureau des entrées, quelles sont les erreurs d'identité les plus fréquentes ?
Eh bien, les erreurs les plus fréquentes sont liées aux zones monimies. Dans notre région, nous rencontrons très fréquemment les mêmes noms de famille. Il n'est pas rare d'avoir 2 patients avec le même nom, le même prénom et la même année de naissance. Cela présente le risque de les enregistrer sur le même dossier de soins alors qu'il s'agit effectivement de 2 personnes distinctes. Nous rencontrons également des cas de patients qui sont enregistrés au laboratoire ou à la pharmacie ou chez leur médecin avec leur prénom d'usage et non leur prénom d'état civil. Une situation très fréquente dans notre région. Ce ne sont alors plus les mêmes patients administrativement lors du transfert des données et l'historique patient n'est pas transmis. Il n'est pas rare aussi de voir mal orthographiés les prénoms composés. Par exemple, une personne s'appelant dans la vie de tous les jours Jean-Marie, alors que sur sa pièce d'identité, il est bien mentionné Jean, prénom simple, séparé d'une virgule, après Marie. Ce sont bien deux prénoms distincts.
C'est ça, hein.
Et c'est, le cas est quand même fréquent.
Donc ce monsieur s'appelle bien Jean à l'état civil. Hein. Voilà. Ouais. Peut-être pouvons-nous donner à nos auditeurs des exemples plus précis pour lesquels une identité non qualifiée a eu des conséquences de prise en charge. Il serait intéressant de pouvoir leur expliquer ces cas concrets.
Je pense précisément à un cas qui a généré un retard de prise en charge médicale. Un patient était connu sous son prénom d'usage auprès du laboratoire depuis des années, avec un prénom composé. De notre côté, à l'admission à l'hôpital, nous l'avons enregistré avec son identité d'état civil, qui comprend un prénom simple, attesté sur sa pièce d'identité et confirmé par le serveur national d'identité. Ce patient nécessitait une transfusion avec des analyses spécifiques, que l'on appelle des rails. La différence de prénom, l'erreur d'identité, ne permettait pas les examens et la transfusion en l'état. Nous avons fait, en situation d'urgence, une mise à jour de l'identité du patient auprès du laboratoire avec appui de la pièce d'identité, afin que les examens préalables à la transfusion se fassent. Vous l'aurez compris, cela a entraîné un retard de prise en charge pour la transfusion du patient. D'où l'importance à l'admission de bien présenter sa pièce d'identité pour l'ensemble des professionnels de fonctionner de concert avec l'identité nationale. Cela garantit une identité unique, univoque, pérenne pour l'ensemble des acteurs de santé et sécurise le parcours de soins des patients.
Tout de suite, là, je pense également à un cas qui nous a beaucoup marqué. Alors, bien sûr, les noms et âges que je vais vous donner, pour exemple, ne correspondront pas, bien sûr, aux patients pour lesquels la mésaventure est arrivée. Mais il s'agissait d'un adolescent de 17 ans qui est arrivé aux urgences avec ses parents avec une fracture. Son prénom est Jean et son nom de famille est Pierre. L'identité reste provisoire car les parents, dans l'urgence, n'avaient pas sur eux la pièce d'identité du jeune patient. Et l'adresse et la date de naissance sont données oralement, au même titre que l'identité. Le lendemain matin arrive avec les pompiers un jeune patient de 17 ans, même mois et année de naissance que le précédent, mais qui cette fois se nomme Pierre en prénom et Jean en nom de famille. Il habite la même ville que le premier, il n'a pas de pièce d'identité, l'identité est déclinée par les secours. Ce jeune homme arrive avec les pompiers, donc il n'a pas sa pièce d'identité sur lui. Et donc le premier part donc en chirurgie suite à sa fracture et le deuxième dans un service de médecine. Ils ont été par erreur inscrits sur le même dossier. La vigilance de l'ensemble des soignants des deux services et de la pharmacie pour la prise en charge médicamenteuse a permis de voir rapidement des incohérences de prise en charge. Ils ont déclaré l'incident à l'identito-vigilant et au bureau des entrées qui ont immédiatement créé un dossier patient pour chacun d'entre eux et remis chaque donnée dans le bon dossier. Cette erreur d'identité aurait pu avoir des conséquences graves sur la prise en charge de l'un et de l'autre, d'autant plus qu'il y avait des traitements spécifiques pour un des jeunes hommes qui est parti après en maladie infectieuse et voilà, avec des antibiotiques spécifiques. C'est ce qui a déclenché d'ailleurs l'alerte auprès des soignants. Alors, nous pouvons préciser que nos aînés sont les plus vulnérables face aux erreurs d'identité. Hein.
Oui, de façon générationnelle, beaucoup de nos aînés ne possèdent pas de pièce d'identité. Ils présentent à l'admission un permis de conduire, s'ils en ont un. Mais rappelons-le, ce n'est pas une pièce d'identité. Dans ce cas, en l'absence de la pièce d'identité, nous demandons une copie de l'extrait d'acte de naissance à la mairie du lieu de naissance, mais l'identité ne sera jamais qualifiée comme on l'a précisé un petit peu plus haut. Ce sont des générations où le prénom donné peut ne pas être déclaré à l'état civil. Souvent, même l'entourage est surpris car il apprend l'existence d'un prénom d'état civil lors de l'hospitalisation. Nous rencontrons souvent des homonymies ou des prénoms d'usage qui ne sont pas ceux de l'identité de naissance parmi les patients les plus âgés.
Alors, merci Véronique pour toutes ces explications. Nous espérons avoir sensibilisé ceux qui nous écoutent sur ce sujet de sécurité des soins.
La fin de cette émission approche. Avant de laisser la parole à Laetitia pour la conclusion de cette émission, je voulais vous remercier Laetitia de m'avoir invitée pour aborder un sujet qui me tient à cœur. J'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que cet échange vous a convaincu de l'importance de l'identito-vigilance dans le secteur sanitaire et médico-social. Il est également auprès des professionnels libéraux. Ne l'oubliez pas. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.
Alors, nous espérons avoir suscité de l'intérêt pour ce thème important, la fiabilisation de votre identité, et bien le premier acte de soins. Cette obligation reste encore méconnue ou non appliquée par beaucoup de professionnels de santé qui sont, il faut le dire, contraints par les environnements logiciels leur permettant de se connecter donc au serveur INSEE et contraints par un changement de leur pratique professionnelle. Mais ne dit-on pas que Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors résumons, l'identité nationale de santé permet de sécuriser le référencement des données de santé et les admissions des usagers, sécuriser le parcours de soins grâce à une meilleure identification de l'usager, faciliter la coordination du parcours de soins entre les différents professionnels de santé, faciliter l'échange et le partage de données de santé à travers la messagerie sécurisée de santé et mon espace santé. Alors pour la rubrique conseils et bonnes pratiques, surtout n'oubliez pas de prendre votre carte d'identité lors de vos rendez-vous médicaux. En famille, faites un point sur les cartes d'identité manquantes ou périmées, surtout auprès de nos aînés. Merci beaucoup Véronique de votre présence et de votre travail avec Laurence au bureau des entrées de l'hôpital. C'est un travail conséquent qui est effectué pour la sécurité de nos patients et résidents. À vos portefeuilles tout de suite pour vérifier votre pièce d'identité, dans l'attente de vous retrouver pour la prochaine émission, durant laquelle je vous emmènerai au cœur de la vie sociale de l'EHPAD. Belle soirée à tous et à toutes.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway.